Vous avez fait le son de vos services de téléphone. On est des mélodies, mais on n'est pas sur les films. Voilà. Bonsoir tout le monde. C'est toujours un grand plaisir de recevoir le vin de Joël Arouche. Nous avons programmé ce soir une conférence à deux voix. Malheureusement, il manquera une voix parce que le docteur de Bélévi était en France pour la scrabble de son moment et n'a vraiment pas trouvé de possibilité d'avion pour arriver à temps ce soir et nous appeler pour nous demander de l'excuser auprès de Joël Arouche et auprès du public. Et il reviendra lors d'une prochaine conférence sur le thème qui aura été débattu ce soir. Nous avons eu vraiment une soirée extraordinaire en ouverture de ce cycle sur l'identité d'Israël. Et donc nos deux intervenants, de la Bena Rouge et le Dr Lévy, ont décliné chacun les divers aspects de cette identité en insistant sur la terre, la Torah, le peuple. Ce soir, on a pensé proposer de travailler, de réfléchir sur un des aspects de l'identité d'Israël qui est important, puisque c'est dans la Torah, c'est dans le livre de Shemot, que au moment du don de la Torah, eh bien, Dieu s'adresse au peuple et lui dit cette phrase que le rabbin Arouche va tout à l'heure nous commenter, nous développer. C'est donc dans Shemot, chapitre 19, verset 5. Ve'aza, Yimshamora, Kishmeru, Vekoli. Donc, et maintenant, si vous écoutez bien ma voix, Ushmaten, Veriki, et que vous observiez, que vous gardiez mon alliance, Ve'itami, Am, Ve'itami, Segula, pardon, Nikola, Amim, et vous serez, pour moi, Segula, un joyau, je le sera, qui traduit en Dieu, parmi tous les peuples, car la terre m'appartient, voilà, c'est tout un programme, et sans autre commentaire, parce que j'en fais qu'à 5 capables, je laisse le rêve écouter ça. Merci.
Alors, bon.
Hervé a demandé qu'on enregistre pour qu'il ait
répondre. Voilà. C'est prévu.
Alors, bonsoir à tous. D'une manière générale, toutes les conférences, tous les cours sont donnés dans un sens bien précis. C'est celui que je viens de dire en hébreu, en araméen, pour unifier les valeurs de l'éternité avec l'Assemblée d'Israël. Ça veut dire qu'en réalité, puisque nous traitons aujourd'hui de l'identité du peuple d'Israël, et que la présentation est en fait concernant la Ségoula, je veux d'abord et avant tout traduire cette notion de Ségoula, qui effectivement peut se traduire comme étant un joyau, mais qui, à mon sens, tire sa racine dans le mot Metsugalou. Metsugalou, c'est-à-dire capacité. Autrement dit, l'Éternel nous annonce que nous sommes capables, que nous avons une capacité à faire certaines choses que les autres nations ne peuvent pas. Qu'est-ce que c'est que cette chose que les autres nations ne peuvent pas et que le peuple d'Israël, lui, a été choisi pour pouvoir cette chose-là, faire cette chose-là? C'est tout simplement ce que je viens de dire, les chefs d'Ikhout, Kouchat, Kouchat, traduire les valeurs de l'éternité pour l'humanité tout entière. Alors, c'est un programme énorme qui est en réalité, lorsque nous disons que le peuple d'Israël a été choisi, nous n'avons vu nulle part dans la Torah le lieu de ce choix, ni le récit de ce choix. Alors la question se pose où et quand le peuple d'Israël fut choisi pour faire cette mission. Ce choix n'a pas eu lieu dans ce monde. Ce choix a précédé la création. Autrement dit, Dieu a choisi de créer une forme qui s'appelle Israël, qui sera capable, dans sa création intrinsèque, de réaliser cette mission. On a l'impression toujours que Dieu a mis toutes les nations du monde et a choisi parmi les nations le peuple d'Israël. Ce n'est pas le cas. Le choix, je le répète, a été fait bien avant la création. Le choix étant de créer le peuple d'Israël de telle manière, afin qu'il soit capable de faire, de réaliser cette mission. Donc c'est un choix qui ne dépend même pas de nos actions, auquel cas nous tombons dans l'idée chrétienne qui dit que si nos actions ne sont pas bonnes, Dieu nous abandonne pour une autre nation, pour un vrai Israël, un nouveau Israël. Et il faut faire très attention avec ce genre d'idée. Quoi que nous fassions, et c'est quelque chose qui est très dur à entendre pour des gens pratiquants, mais quoi que nous fassions, nous sommes toujours, éternellement, le peuple qui a été créé avec cette capacité de dévoiler l'infini. Alors effectivement, lorsque nous ne jouons pas notre rôle dans l'histoire, on n'est pas retiré de cette fonction. Elle est toujours en nous, mais dans un état d'étouffement. Et donc, lorsque cette notion est voilée à l'intérieur de nous, nous souffrons de ce manque de dévoilement de cette idée en question. Je peux dire qu'en pourcentage, le pourcentage de souffrance de notre peuple est le même pourcentage de tout ce qui n'a pas dévoilé de sa propre identité. De la même manière que pour un homme individuel, si nous avons 100% de ce que nous sommes, je vais prendre mon exemple pour ne pas vous faire peur, je dois être 100% le modèle que l'Éternel a voulu que je sois. Il a créé un Yoël, et ce Yoël maintenant est devant vous, et j'essaye, j'aspire à révéler les 100% de catalogue beaucoup a prévu lors de ma création. Si je ne révèle que 60%, eh bien, je vis à 60% de ma capacité et j'ai 40% de souffrance qui s'appelle l'enfer, le Géhenna. Donc l'enfer et le paradis, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. C'est tout simplement vivre selon votre identité ou bien ne pas vivre selon votre identité, c'est-à-dire l'étouffer. Et c'est en cela que l'abîme, le grand fossé, se creuse. D'où la traduction du mot Géhenna, qui ne veut pas dire l'enfer, mais un grand trou. Un décalage. Et d'où la délicatesse de l'antithèse de ce décalage, c'est-à-dire la douceur et la adinou, la délicatesse, racine du mot Eden. Donc vous avez le Gan Eden, qui en réalité la vie selon ce que je suis, et le Genenon, le décalage entre ce que je suis dans le modèle initial, ce que je vis de ce modèle, ce que je dévoile de ce modèle dans ma vie courant en bas. Et bien, le peuple d'Israël a été créé avec une segula, mesugal en hébreu, être capable de. Et bien, cette capacité lui a été donnée intrinsèquement, naturellement. Naturellement vient du mot naître, c'est-à-dire dès sa naissance, il a reçu cette qualité en lui sans le choisir. On n'a rien choisi. On ne nous a pas demandé. On nous a braqué divinement pour qu'on soit capable de faire ce travail. C'est notre rôle dans le monde. Et de la même manière que je viens de l'expliquer au niveau de l'individu, et au niveau de la nation d'Israël, le jeu qu'elle ne joue pas, le décalage entre ce qu'elle est dans sa nature profonde et ce qu'elle révèle aux nations dans son identité manifestée, réalisée, eh bien ce décalage, c'est son enfer. C'est nos souffrances, c'est nos exils, c'est nos maladies, c'est nos maux, M-A-U-X. Moralité, nous devons, durant toute notre vie, chercher à retrouver l'identité qui est la nôtre. C'est-à-dire que je dois, au niveau individuel, devenir le plus Yoel possible. Et le plus Israël possible. Pour vivre au maximum la qualité qui m'a été donnée lors de ma création. Chaque nation du monde a reçu une spécificité. Ce n'est pas seulement le peuple d'Israël. La spécificité du peuple d'Israël, c'est de révéler le divin. Mais il y a une spécificité pour chaque nation. C'est ce qu'on appelle sa Torah. Donc chaque nation a reçu sa Torah. Pas la Torah, celle que nous l'avons reçue, nous. Celle que nous avons reçue, c'est celle qui correspond à notre édifice, à notre construction intérieure. Mais d'autres nations ont reçu leur manière de vivre. De la même manière que les animaux, chacun d'entre eux a sa Torah. La Torah du chat, c'est de se lécher comme il le fait, sans mentir, sans se déguiser en chat beauté, ni en chien. C'est de vivre sa vie de chat. Un oiseau est un sadique. Sadique veut dire sauvé, il a raison. Il ne se déguise en rien d'autre et il vit sa vie d'oiseau à 100%. Par conséquent, il est sadique. Je devrais, moi, en tant que peuple d'Israël, vivre comme cet oiseau, mais avec mon identité. Vivre à 100% ce que je suis. La différence, c'est que l'oiseau n'a pas de choix et que l'homme en a un. Et lorsque le choix de l'homme décide d'étouffer, car il ne peut rien faire d'autre que d'étouffer, la ségoula, sa capacité première. C'est tout ce que nous sommes venus faire dans ce monde. Nous n'avons aucun choix. Le seul choix que nous ayons, c'est d'étouffer cette capacité ou de la dévoiler. Un point à la ligne. La plupart des gens qui ne veulent pas vivre selon leur identité le font. Mais en réalité, il y a des conséquences par rapport à cela. Car tu ne vis pas une vie vraie. Tout ce que je viens de vous dire, ça se traduit par un mot. La Nebuha, la prophétie. Donc je traduis maintenant et je rajoute une couche. Notre spécificité, notre ségoula, notre capacité intrinsèque qui nous a été donnée dès notre création et bien avant, c'est d'être prophète. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est un peuple de prophètes. La Gemara nous dit qu'il y a autant d'hommes et de femmes qui sont sortis d'Égypte que de nombre de prophètes. Ce qui veut dire, c'est un jeu de mots, que tout le monde est prophète dans son potentiel intérieur. Vous avez déjà ici une souffrance, car avant de me prouver le contraire, personne dans cette salle ne prophétise. Il n'entend pas la parole divine. Aujourd'hui, on enferme pour bien moins, dans des hôpitaux de fous. La prophétie, c'est quelque chose d'énorme. Mais puisque c'est notre capacité de base, encore une fois, ségoula, tant que je ne reviens pas à cette ségoula et que je redeviens celui que je suis, c'est-à-dire prophète, je suis en deçà de ma capacité première. Or, cette prophétie ne s'acquiert pas vainement et pas n'importe où. Cette prophétie a aussi un lieu qui lui correspond. C'est la terre d'Israël. Il n'y a aucune prophétie en dehors de la terre. Toutes les prophéties qui ont eu lieu en dehors de la terre d'Israël étaient pour la terre d'Israël ou comme deuxième degré d'une prophétie qui a commencé dans la terre, sur la terre. On ne peut pas se relier aux valeurs de l'infini et entendre, être à l'écoute des vibrations divines si on n'est pas un peuple sur sa terre. Et les prophéties, encore une fois, sont liées à la nation d'Israël. Je suis mesuré à mes capacités intérieures selon le pourcentage de mon lien avec l'âme collective de ma nation d'Israël. Un grand tzaddik, c'est un homme, une femme, qui vit lié, relié à 100% à la nation d'Israël, pas aux hommes et aux femmes que nous sommes ici seulement. Ça, ce sont les individus de la nation. La nation, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est un ensemble qui est bien au-delà de l'ensemble de ces détails. Nous sommes les enfants de cette nation. Cette nation est une âme qui a été créée par l'Éternel. Elle s'appelle Israël. Vous, vous êtes les enfants de cette âme, donc les enfants d'Israël. Mais cette âme a été créée et elle se trouve où? Au centre de gravité de toute la création. C'est une braïta, une mishnah de Rabbi Akiva, énorme, qui nous dit « Chaya acha omedet be'emsa harakia ». Une braïta, c'est une mishnah qui n'a pas été retenue dans les mishnayot. Braïta veut dire dehors, mais elle nous impose. Rabbi Akiva nous enseigne, le maître de toute la Torah orale, il y a une forme de vie qui se trouve au centre du ciel, ou Shema Israël. Et son nom est Israël. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas de juifs dans ce monde. C'est une puissance créée par Dieu. Et elle est au centre du ciel, autrement dit au centre de sa pensée infinie. Des notions qui nous sont difficiles à saisir. Toujours est-il que cette forme-là de vie, Vechakouk al Mitra Israël, est gravée sur son front. Les lettres Israël, Omedet ve Omeret Barechou et Hashem Ameborach. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se relie, Barechou ici, Bracha ne veut pas dire bénédiction, bien entendu, mais lien, car on ne peut pas bénir Dieu, quand vous dites béni sois-tu l'Éternel, et qui tu es pour le bénir. Ça ne veut rien dire, Baruch Ata Hashem, ça ne veut pas dire béni sois-tu l'Éternel, c'est lui qui me bénit, pas moi. Donc, Baruch se traduit par relié, comme Berech, qui est le genou, qui est entre la partie haute et la partie basse. En français, c'est un jeu de mots. Je et nous. C'est-à-dire que lorsque vous avez mal au genou, c'est que vous avez mal dans votre cou. Et donc, en réalité, ce Berech, qui est la bracha, la bénédiction, le lien, eh bien, ce lien, c'est Israël qui le fait. C'est elle, cette notion d'Israël que je viens de dire, qui annonce dans l'univers tout entier, reliez-vous à l'Éternel. Autrement dit, je suis, moi, la forme essentielle de ce lien. Sans moi, aucune idée, aucune nation, aucun homme, aucune femme, aucun animal ne peut se relier aux valeurs de l'infini. Ça veut dire que le peuple d'Israël est le trait d'union entre l'infini et le fini. C'est ça la prophétie. Donc nous sommes un peuple de prophètes et ce peuple porte en lui la capacité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par nature, par sa nature, On appelle ça en hébreu dans le langage de l'étude Ve'etzem, Ve'lo Benikre. C'est-à-dire c'est en essence, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, parce que tu as fait un effort ou pas. Vous l'avez tous. Je décris cette notion d'Israël comme un grand soleil infini, dont chacun de nous ici n'est qu'un rayon. Et je vous pose une question. Est-ce que les rayons du soleil existent? La réponse est non. Le soleil rayonne, mais il n'y a pas de rayon. Autrement dit, si vous n'êtes pas relié en tant qu'individu à ce grand soleil, vous n'existez pas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que les kabbalistes, à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils disent « Bechem kol Israël » au nom de ce grand soleil qui s'appelle Israël, dont je suis juste un rayonnement. C'est lui qui rayonne. Je suis qu'un conduit, qu'une branche, qu'un bras, qu'une excroissance de ce grand soleil. Et si, Chas v'Shalom, je me prends pour un individu déconnecté de ce grand soleil, je rentre dans la catégorie du rachat. Dans la Haggadah de Pessah, on appelle rachat le fils Shehotzi et Asmo Minhaklal, car il s'est déconnecté de ce grand soleil. Donc les initiales du mot racha, c'est pas le méchant, le mécréant. Ça, c'est des notions chrétiennes qui ne nous regardent pas. Le racha, c'est trois mots. Resh, Shin, Ain, trois lettres qui correspondent à trois mots. Ratson, Shel, Asmo. C'est-à-dire celui qui croit qu'il existe à part entière, qu'il existe de par lui-même, qui a oublié son lien avec ce grand soleil. Se déconnecter de ce grand soleil, c'est tout simplement mourir. Et donc, ceux qui n'ont pas voulu choisir de sortir pour dévoiler, car toute la sortie d'Égypte ne parle que de cela, de laisser ce peuple qui va descendre, cette notion divine, infinie, qui a été créée, qui s'appelle Israël, qui ne peut jamais mourir, Am Israël Chai. Pourtant, il y a des Bnei Israël qui meurent. Vous comprenez la différence? Des Juifs, individuellement parlant, meurent. Mais cette notion de grand soleil ne peut pas mourir. C'est de celle-ci que nous parlons lorsqu'on dit Am Israël Chai. Seulement cette notion-là doit s'habiller dans des hommes et dans des femmes. Et donc vous êtes, nous sommes les porteurs de ce grand soleil, à condition que nous puissions à chaque instant nous souvenir de ce lien, auquel cas nous sommes vivants. Et pour être fidèle à ce grand soleil, il me faut trois choses. Que le Maharal de Prague cite dans son ouvrage « Netzach Israël » au premier chapitre. Être sur sa terre, être réuni et être dans son identité, sur son identité. Autrement dit, le Maharal nous dit que l'exil, ce sont trois choses. Sortir de la terre, se s'éparpiller, exploser en détail, et être soumis à une autre nation, c'est-à-dire oublier son identité propre. Donc la Géoula, la rédemption, se fait sur trois points seulement. Revenir sur sa terre, se réunir et retrouver notre identité divine profonde. Voilà le programme de toute la vie, de toute la création du monde. Moral de Rabotai, nous sommes dans le sixième millénaire, à l'entrée du Shabbat. Au niveau temporel, traduisez les six jours de la création comme les six millénaires. La Gemara nous dit que le monde a été créé pour six jours, donc pour 6000 ans. Et après, nous entrons dans un Shabbat. Nous sommes en 5778, c'est-à-dire que nous sommes en réalité à l'entrée du Shabbat du temps. si vous voulez faire partie de ce jeu, entre guillemets, eh bien, il va falloir vous ouvrir vous-même et créer une ouverture dans vos vies pour faire partie de ce grand spectacle divin qui se dévoile peu à peu dans le monde. Ce que je viens de vous dire maintenant, c'est ce que vous lisez dans la paracha que vous allez lire lors de la sortie d'Égypte. Que chacun des enfants d'Israël a peint ses linteaux avec le sang de sa Brit Mila. Qu'est-ce que c'est que ces actions qui nous rappellent de la sorcellerie? Vous avez déjà vu quelqu'un peindre ses linteaux, les linteaux de sa porte, ses mezuzot, avec du sang de sa Brit Mila et de l'agneau qu'il vient d'égorger et le mélanger avec un zaatar pour faire un pinceau. Rabotai, la Brit Mila, c'est notre ouverture au niveau corporel. Quand vous faites la Brit Mila à votre fils à 8 jours, vous ouvrez son canal pour qu'il soit capable de se connecter à cette valeur de ce grand soleil. C'est pour ça que cette Brit est à 8 jours. Parce que 8, c'est le chiffre qui est au-delà de la nature. Vous comprenez donc que le peuple d'Israël, ce grand soleil, est au-delà de la nature humaine normale, classique. C'est une qualité spéciale que le peuple d'Israël a reçue dès sa naissance, dès sa formation. Eh bien, je relie chaque enfant d'Israël. Les filles sont reliées par les hommes. Deuxième sang, le sang du bélier. Le bélier, dans le récit de la sortie d'Égypte, représente l'égoïsme. Le bélier étant salé, salé en valeur numérique, d'âme, qui veut dire le sang. C'est-à-dire que c'est chacun de nous avec son ego. Si vous arrivez un jour d'aller au zoo, allez voir des béliers, même si vous leur servez à manger, ils ne veulent pas manger de leur plat, parce qu'il y a un autre bélier à côté qui mange lui aussi de son plat. Il faut qu'il lui tape avec ses cornes pour dégager tous les béliers qui sont à côté, parce qu'il a besoin de manger. Je vous traduis ça en forme humaine, même si je gagne ma vie, j'ai pas envie que mon ami gagne aussi sa vie. Je suis jaloux de lui, Frère Shalom. Ça me fait mal qu'il réussisse. Ça, c'est la forme du bélier. Si tu veux sortir d'Égypte, tu dois faire la shrita à cette catégorie d'être. C'est-à-dire, tu dois couper en toi cet ego, cet égoïsme qui t'empêche d'aimer ton prochain, comme le bélier. En prenant le sang du bélier, le sang de la Brit Mila, je mélange les deux sangs et je peins à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison? À l'intérieur, pas à l'extérieur. Vous croyez que Dieu a besoin de voir votre sang? C'est pour vous que vous faites ça. C'est votre ouverture. Kadosh Baruch Hu, c'est pas Batman, Spider-Man qui vole au-dessus des maisons et qui regarde qui a peint son linteau. C'est tout simplement une ouverture à l'intérieur de vous-même, Rabotai. Quand vous ouvrez à l'intérieur de votre vie, de votre être, le passage de l'infini, vous sortez d'Égypte. Et en sortant d'Égypte, non seulement vous vous libérez en tant qu'individu de toutes les contraintes d'un esclavage physique, beaucoup plus que cela, vous dévoilez votre identité qui était étouffée jusqu'alors. Et quand vous dévoilez cette identité, vous commencez à vivre enfin en plein régime de votre identité, non plus à 10%, ni à 1%, ni à 20%, mais à 100%. Et bien entendu, c'est un cheminement, c'est une traversée de désert jusqu'à l'arrivée sur notre terre, où là, je peux m'exprimer d'une manière beaucoup plus ouverte. Mais je le fais déjà en chemin. Dieu demande à Israël seulement de construire un temple. Pourquoi les nations du monde n'ont pas reçu cette mitzvah? Parce qu'ils ne sont pas les vecteurs de la lumière divine. Nous construisons ce vecteur, cette forme qui qui est le Beth Amikdash, imaginez-vous que c'est en réalité un appareil cosmique capable de recevoir les valeurs de l'infini. C'est ça le Mishkan, ça a des mesures divines. Ce ne sont pas des mesures humaines. Quand vous entrez dans le Beth Amikdash, il n'y a plus de mesures. Il y a un secret au niveau des mesures. C'est-à-dire que le peuple entier peut rentrer dans un lieu qui ne peut pas contenir ce nombre. Et quand vous vous prosternez dans le temple, il y a encore plus de place que lorsque vous êtes debout déjà serré. Incroyable. Dieu n'a jamais demandé à une autre nation de créer ce temple-là, car nous sommes les porte-parole du Verbe divin. Nous sommes son nom. Il y a lui et il y a son nom. Lui, on n'a pas le droit de toucher. On ne peut pas. On ne comprend pas qui nous sommes pour toucher son être. Quand vous rentrez dans une étude de kabbaliste, si un jour il vous arrive d'aller dans une yeshiva de kabbaliste, entrez et vous allez voir tous ces kabbalistes en train de rire pendant leur étude. Incroyable. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne savent rien. Ils ne se prennent pas au sérieux. Ils savent qu'ils parlent de notions que personne dans ce monde ne peut contenir, ne peut assimiler. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on ne s'occupe pas de lui, on s'occupe de ce qu'il veut faire passer dans ce monde. Et ça, c'est déjà plus lui, c'est son nom. Pour lui, c'est la même chose, mais pour nous, c'est différent. Hu ou Shmo Echad. Adonai Echad ou Shmo Echad. Vous voyez qu'il y a deux degrés ici. Eh bien, nous sommes Shemo. Shemo, en valeur numérique, c'est la même valeur numérique que le mot Ratson, c'est-à-dire sa volonté. Donc, lorsque vous connaissez sa volonté, vous connaissez son nom. Donc nous devons étudier les noms d'Akadosh Baruch Hu. Et si vous ne connaissez pas ces noms, vous ne pouvez pas vous élever. Comme il est dit, Asagezehu ki yada sheni. Qui j'élève, dit Akadosh Baruch Hu, ceux qui connaissent mon nom. Donc il faut étudier les noms d'Hachem. Nous sommes dans le livre des noms, pas des nombres. C'est bizarre qu'en français, le livre de Shemot, qui est justement le livre des noms, s'appelle les nombres. C'est exactement l'Exode, pardon. Mais aucun rapport avec ça. C'est les noms. L'Exode, c'est une traversée. C'est vrai que le récit nous raconte ça, mais ce n'est pas l'essentiel du livre. L'essentiel du livre, c'est les noms. Vous savez qui est descendu en Égypte? Les noms, pas les enfants d'Israël. Vous ne savez pas traduire, vous ne savez pas lire le texte. Le texte nous le dit, « Ve'ele Shemot, Bnei Israël, Abba et Mitzrayim ». Ce sont les noms qui sont descendus en Égypte, et en plus au présent, qui viennent tout le temps en Égypte. Autrement dit, nous perdons les noms, et ils descendent dans l'Égypte de notre vie, dans les prisons de notre vie. Traduction. Nous perdons l'essentiel même des définitions des choses. Nous ne savons pas définir. Et quand tu ne sais pas définir, tu n'as pas compris le sujet. Quelle est la différence entre un bon maître et un mauvais maître? Un bon maître va définir des notions énormes par des mots simples. Tu vas sortir de son cours avec quelque chose dans le cœur, dans la poche. Sinon, tu restes dans le vague. Et l'étude des noms, c'est en réalité libérer les noms. En hébreu, Sham et Shem, c'est la même chose. C'est une direction. C'est le pourquoi. Comment vous dites pourquoi en hébreu? Les Shem Ma, que vous avez raccourci en Lama. Mais le Lama n'existe pas en hébreu, que vous sachiez. C'est un raccourci de les Shem Ma. C'est-à-dire au nom de quoi, pourquoi, c'est énorme. C'est comme ça pousse une orange, ça n'existe pas en hébreu. C'est un pouvoir zahav. une pomme d'or. Eh bien, c'est la même chose au niveau des noms. Les noms descendent en Égypte, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à définir qui est à la source de la création du monde. On est paumé, on est perdu. Le créateur de l'univers était seul lors de sa création. Il a utilisé un verbe divin, comme la Torah nous le dit, car la Torah tout entière est une prophétie qui a été donnée seulement au peuple d'Israël. Donc, encore une fois, une preuve que nous sommes le seul peuple au monde à être le canal par lequel Dieu, entre guillemets, revient dans le monde de sa propre création. N'obstruez pas ce canal. Ouvrez tous vos sens. Soyez à l'écoute. Soyez dans la sensibilité. Il y a des voix dans l'univers. Nous sommes grossiers. On n'entend plus rien. Nos sens sont décalés, dégradés. Il faut récupérer ces sens. Nous sommes censés entendre ce qu'aujourd'hui on n'entend plus. Nous sommes censés voir ce que nous sommes incapables de voir. Nous sommes censés sentir, goûter, toucher, palper des choses qu'aujourd'hui on n'est pas capable. Je devrais savoir les yeux fermés quel jour je suis. Pas parce que le calendrier me dit que dans 2 semaines c'est tout du cheval. Non, parce que je me lève le matin et je sens et je me dis c'est tout du cheval. Vous comprenez la différence ? Abraham Avinu n'avait pas de Torah écrite, il avait une Torah de vie. Il savait exactement à la minute près quand arrivait la fête de Pessah. Qu'est-ce que c'est que la fête de Pessah pour Abraham ? Il n'y a ni peuple juif, ni sorti d'Égypte, ni le pharaon, ni toute l'histoire. Alors qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien le soir de Pessah chez Abraham Avinu, il savait déjà à son époque que c'était un moment où on peut se libérer de tous les emprisonnements de ce monde, de sortir de toutes les formes d'étroitesse, car l'Égypte n'est pas seulement un pays, c'est une étroitesse. Tout ça, et encore plus que ça, est inscrit dans la notion de Ségoula que je viens de vous expliquer. Nous avons reçu tout ça. Combien de tout cela nous vivons ? Pas grand-chose, malheureusement. Un appareil qui a été fabriqué par un génie avec des milliers d'applications, j'en utilise 5, 10. Un jour, j'ai rencontré l'auteur de cet appareil, il va me dire, ça a perdu. Il y avait 1800 applications que tu n'as même pas utilisées, tu n'as rien compris à mon appareil. Vous avez des milliards d'applications dans votre être d'Israël. Combien d'entre elles, de ces applications, vous utilisez réellement ? Vous comprenez le mal et la souffrance ? Ça, c'est la plus grande des souffrances. Il n'y a pas un Dieu punisseur. Nous nous punissons nous-mêmes. On ne vivons pas ce que nous sommes capables de vivre réellement. On gâche notre vie à vivre en dessous de notre véritable niveau. Al-Har Gavoa, Ali, Al-Har Gavoa, va se fricoler, monte sur une grande montagne pour crier. Pourquoi j'ai besoin de monter sur une montagne ? C'est une allusion. Tu es une montagne, tes pères sont des montagnes, tes mères sont des montagnes, Abraham, Isaac et Jacob, et toi tu vis dans une vallée, dans un creux. Monte au niveau de ta véritable étang pour pouvoir dire en réalité ce que tu devrais entendre et que tu n'entends pas aujourd'hui parce que tes sens sont bouchés. Vous comprenez ce que c'est que la Ségoula ? Et cette Ségoula vient de la racine du Ségol. Le Ségol, c'est 3 points. Un point à droite, un point à gauche, et un point en dessous, un triangle. Un triangle formé de 3 points. Pourquoi ? Parce que nous sommes un peuple triangulaire. Et voilà le secret du Ségol, donc de notre capacité intrinsèque. C'est-à-dire qu'il y a trois points dans notre essence divine que nous devons développer. Quels sont ces trois points? Eh bien, le Ségol vient nous enseigner qu'il y a ici un triangle. Donc nous avons un peuple formé de trois points. Kohanim, Lévi'im, Israélim. Déjà trois points. Nous avons reçu une Torah qui elle-même est formée de trois parties. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Celui qui nous a donné la Torah est passé par, donc Akadosh Baruch Hu, par un homme qui était le troisième fils, après Aaron, Myriam, Moshe. La Torah elle-même nous a été donnée le troisième mois de la sortie d'Égypte, qui est le premier mois de l'année. Nissan, Iyar, Sivan. Vous voulez que je continue? L'hébreu a des racines de trois lettres. Nous avons trois prières par jour. Shacharit, Mincha, Arvit, les initiales du mot Shema. Quand vous dites Shema Israël, Sheshacharit, Mincha, Arvit. Nous avons trois fêtes dans l'année qui s'appellent les trois pieds, c'est-à-dire des pieds. C'est faire trois fêtes pour se poser sur la terre. Eh bien, Dieu se pose sur la terre avec trois pieds. Pesach, Shavuot et Sukkot. Nous avons trois pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Al shlosha devarim haolam omed, à la Torah, à la avoda, à l'imiyut chassadim. Je peux continuer jusqu'à demain matin. Vous comprenez qu'il s'agit ici d'un triangle. Donc, les sages nous ont appelé le peuple du triangle. Am teitaai, le peuple du trois. C'est le secret du triangle. Or, le triangle, c'est celui qui forme en réalité le cercle. C'est-à-dire que nous sommes ici dans une forme géométrique qui est capable de prendre un monde qui nous dépasse, qui est circulaire, et d'en faire un monde rectiligne. C'est-à-dire que je trouve un sens dans un monde qui n'en a pas. Je prends un cercle et je trace une direction en plein milieu de ce cercle. Et ce cercle, au lieu de rester un disque plat, il devient une vis. Et il avance en histoire du temps. Ça veut dire que j'ai transformé le cercle et je lui ai donné une forme directionnelle. Chaque fête que nous fêtons n'est pas la même fête que l'année dernière. Elle est au même degré, mais un degré plus haut. Nous montons à chaque fois d'un autre degré. Vous comprenez ce que c'est que cette ségoula? Qui a reçu cela? Le peuple d'Israël seul. Réou qui ami amea are, veraou kol amea are kishem ashem nikra alecha. Vous êtes, vous, les porteurs de mon nom. Même les Africains. Le peuple d'Israël porte le nom d'Hachem, veraou. Kol Amer Haaret, les nations de la terre verront que le nom d'Hachem, le nom, son nom, c'est-à-dire son dévoilement, Nikra Alecha, est marqué sur toi. C'est-à-dire quand je veux savoir ce que Dieu veut, je dois regarder le peuple d'Israël. Sortir en guerre contre le peuple d'Israël, balancer des missiles sur Israël, c'est balancer des missiles sur Dieu lui-même, sur son dévoilement. Faut que vous le sachiez. Les nations du monde qui sont tombées dans l'erreur que notre choix, le choix de Dieu concernant Israël, est un choix aléatoire, se disent que lorsque l'Assemblée d'Israël ne se conduit pas comme elle il faut, eh bien il va la changer avec une autre nation. C'est comme ça qu'est née la chrétienté, qui s'appelle le vrai Israël. Vous êtes les faux. Et le vrai Israël vient prouver qui est le vrai Israël, car il revient sur sa terre. Donc c'est un os dans la gorge de la chrétienté. Lorsque le peuple d'Israël est revenu sur sa terre il y a 70 ans. Personne ne comprend ce phénomène. Nous étions le peuple maudit, que Dieu a banni, que Dieu a éloigné. Vous comprenez qu'en faisant votre alia, vous avez réalisé la volonté divine et vous n'avez pas fait en sorte que les gens disent que c'est un menteur. Car chaque juif qui ne ment pas en Israël, c'est comme s'il disait à Kadosh Baruch Hu, et aux yeux des nations, c'est un menteur. Parce que Dieu nous a promis de vous ramener sur la terre, et moi je vais encore à Paris. Ou à Bruxelles, ou à Lyon, ou à Amsterdam. Quand vous avez fait vos valises, vous avez ramené avec vous, et vous avez signé comme quoi nous avons un Dieu qui dit la vérité. Et nous avons réalisé son projet. Nous sommes les réalisateurs de son projet. Nous sommes les acteurs de son rêve. Tout ceci, c'est la ségoula de ce peuple. Sans étudier ses valeurs, vous ne pouvez pas réellement étudier la Torah. Vous rentrez dans des textes. Vous ne savez même pas où vous êtes. Et vous êtes directement plongé dans une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua. Tu ne sais même pas qui tu es. Comment tu veux étudier? Ton étude, elle prend forme lorsque tu sais de quoi parle Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua. Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua, par exemple, dans la Gemara de Rosh Hashanah, à la page 10 et 11, discutent à quelle date le monde fut créé. Moi, je vous pose une question, est-ce qu'au moment de la création, il y a des dates? Le temps n'existe même pas. Alors, de quoi ils parlent, ces rabbins d'Israël? Ils n'ont rien à faire. Et l'un d'entre eux dit que le monde fut créé à Tishrei, et l'autre dit que le monde fut créé à Nissan. Vous savez de quoi ils parlent, ces rabbins? Ce sont des géants. Ils nous expliquent, est-ce que la véritable création commence au moment où Dieu crée la matière, à Tishrei, ou bien est-ce que la véritable création du monde commence lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte? C'est énorme. C'est beau. Et les Chachamim nous disent qu'il faut s'adresser à la sortie d'Égypte comme à la création du monde. C'est là où le monde commence. Pas le monde de la création, on s'en fiche des dinosaures. Le monde du moussard, de l'éthique, de la morale humaine, dont le porteur est le peuple d'Israël. Ça commence à Nissan. Et en réalité, c'est ça le lien. Vous comprenez que toutes ces discussions, si vous ne savez pas de quoi vous parlez, ça reste à un niveau incroyablement bas. C'est du ras des pâquerettes, excusez-moi l'expression. La Torah est profonde, elle est belle, elle est énorme. Nous sommes dans la paracha que nous allons lire ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, nous allons voir trois dernières plaies. Vous savez ce que c'est que ces trois dernières plaies? Pourquoi la Torah a voulu séparer volontairement les sept premières plaies des trois premières plaies? On ne peut pas lire tout un Shabbat en se débarrasse tranquille? C'est des secrets tout ça. Les sept premières plaies sur l'Égypte, d'abord on les appelle des plaies, mais ce ne sont pas des plaies, ce sont des makos. Dans le langage de la Torah, maka vient pour dévoiler quelque chose. C'est-à-dire, chaque fois que tu frappes, il y a un dévoilement. Regardez, j'ai ma langue qui frappe le palais et il y a des mots qui sortent. Sans ce tapage, il n'y a pas de langue qui sort, il n'y a pas de mots qui sortent. Essayez de mettre votre langue au centre de votre bouche dans le vide et il n'y a rien qui sort. C'est parce qu'il y a un contact, c'est parce qu'il y a un certain combat. Eh bien, les makos viennent libérer toutes les paroles divines de la création du monde qui sont tombées dans les oubliettes, car Dieu était seul, sans qu'il y avait personne pour savoir que c'était lui le créateur. Alors, Vayomer Elohim Yehi O, Dieu dit, avec cette phrase-là, c'est la formule exacte, en hébreu, Vayomer Elohim l'Éternel, du nom de Elohim, parce qu'il faut connaître la différence des noms, je vous l'ai dit tout à l'heure, dit Yehi Or. Pas que la lumière soit, il n'a pas parlé en français, il a dit Yehi Or. Incroyable. C'est-à-dire, c'est une formule divine pour la lumière. Eh bien, cette formule divine était tombée dans les oubliettes. Comment est-ce qu'on appelle les oubliettes? Les livres. La deuxième formule divine, Vayomer Elohim, et ainsi de suite. Vous savez que tout le récit de Bereshit, c'est Vayomer Elohim. Vayomer Elohim. Que ça se soit, que ça se soit, que ça se soit, que ça se soit. Donc toute la création est. Combien de formules comme ça il y en a? 10. Donc il faut les libérer, car elles sont tombées en Égypte. Donc il faut 10 plaies. Qui sont 10 coups qui libèrent la parole qui était enfermée dans les oubliettes de l'histoire. Et ces 10 plaies étant données sur les 10, ces 10 macoles, vont libérer les 10 paroles de la création du monde. Incroyable. Et 50 jours plus tard, après la sortie d'Égypte, ces mêmes 10 paroles vont devenir les 10 commandements. Il n'y a rien qui se perd, tout se transforme. Extraordinaire. Vous comprenez que la Torah, c'est un secret énorme. Et le dialogue entre l'infini, béni soit-il, quelque chose qui dépasse notre entendement. Comment est-ce que l'infini vient parler à une nation faite d'hommes, de femmes, d'enfants, chers et os, des animaux? Il n'a rien à faire, ce créateur de l'univers, de venir parler à un peuple. Moraï de Rabotai, ce peuple a été créé pour véhiculer les valeurs de Dieu sur terre. Et tant que ces valeurs sont étouffées parce que ce peuple est en Égypte, eh bien, Dieu lui-même est en exil. Et donc, en libérant le peuple d'Israël d'Égypte, il s'est libéré lui-même, le Créateur, car c'est lui qui est sorti d'Égypte. Et quand vous avez fait vos valises pour venir habiter en Israël, vous avez ramené Dieu dans votre valise. Vous n'avez pas fait attention. C'est ce qui est dit dans le livre de Vaïkra 23. Et c'est pour ça que Dieu ne dit pas « Je vous ramènerai sur la terre », et remarquez, je reviendrai avec vous. Dieu reviendra avec toi. Incroyable. Alors que dans la traduction normale, Dieu va te ramener sur ta terre, si Dieu veut, l'année prochaine. Arrêtez avec tout ça. Il faut arrêter de tomber dans ce degré d'étude qui n'a aucun sens au niveau de son essence. Et c'est ça l'étude de l'identité. J'ai même pas commencé mon cours à Bosaï. Je vous jure, j'ai fait deux lignes. Des lignes sur des phases entières, je ne sais même pas par où commencer. C'est énorme. Mais c'est une règle. Plus que ce que le veau veut téter, la vache veut donner du lait. C'est toujours comme ça. C'est une règle. La maman veut toujours que son fils mange. Mange mon fils, ça s'appelle Judaïs Park. Elle lui court après, comme un dinosaure. Nous sommes les porteurs du verbe divin à Rabotai. Le peuple d'Israël a été créé avec cette qualité prophétesse de prophétie pour dévoiler les valeurs de l'infini. C'est pour ça que Dieu prend soin de descendre vers nous. Qu'est-ce que ça veut dire descendre? C'est que Dieu descend. Va yered Hashem al-Har Sinaï, c'est écrit. Ça veut dire que quoi? S'il descend, ça veut dire qu'il est limité dans l'espace. Un coup il est là-bas, un coup il descend. On peut parler comme ça de Dieu. Phrase de Shalom. Alors qu'est-ce que ça veut dire Dieu descend? Dieu se dévoile. Lorsqu'un maître descend au niveau de ses élèves, il dévoile les valeurs aux élèves. C'est pas qu'il est descendu, il est resté à la même place. Il n'y a pas où descendre. Il remplit l'infini. Il est omniprésent, omnipotent. Alors, il faut étudier selon ce que la Torah veut dire. Sinon, on tombe dans n'importe quelle bêtise. Et ça devient de la Avodah Zarah. Quand je vous ai dit tout à l'heure que vous ramenez Dieu ici, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous êtes enfin capable de le dévoiler. Car il ne se dévoile que sur sa terre. C'est la prophétie Adonai Betzion Gadol. Vous le dites tous les vendredis soirs. Qu'est-ce que ça veut dire Adonai ben Sion Gadol? Dieu est grand à Sion. Ça veut dire qu'il est petit à Paris. Et qu'est-ce que c'est un petit Dieu, un grand Dieu? Vous pouvez me parler dans un langage que je comprenne? Oui, ça veut dire rapetissir Dieu ou agrandir son dévoilement. Ça ne parle que de son dévoilement. À l'extérieur de cette terre d'Israël, vous réduisez le dévoilement divin. Sur votre terre, vous avez retrouvé votre identité. Vous pouvez agrandir le nom d'Hachem. Yigadal veyitkadash, Shem Rabba. C'est ça le Kaddish. C'est agrandir le nom d'Hachem. Et donc, toutes nos valeurs sont liées aux notions divines. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne où l'homme joue dans un grand théâtre. Il joue à quoi? À faire semblant d'être heureux. Et à l'intérieur, il est mort d'angoisse. Chacun à son niveau. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rejoint son identité. Vous voulez être heureux dans votre vie? Vous devez certifier ce que vous êtes. Arrêtez de vous la jouer. Vous ne pouvez pas mentir à la lumière. En hébreu, certifier, ça se dit le hacher. Quiconque certifie Dieu, il devient mekouchar, il devient heureux. Le bonheur, c'est seulement la certification de ma propre identité. Étant donné que vous êtes né faisant partie de ce peuple d'Israël, vous avez qu'une seule chose à faire, ouvrez vos robinets. Devenez des vecteurs de la valeur divine sur terre. Parlez d'une Torah intelligente. Arrêtez de croire que la Torah, c'est assour, moutard, ça fait comme ça, le bon Dieu va punir. Arrêtez avec tout ça, arrêtez. On a réduit Dieu à un patron de ma collette énervé. Qui te tape parce que tu as fait un, deux, trois. Arrêtez. Arrêtez de réduire l'infini béni soit-il à des valeurs aussi débiles. Et c'est ça qu'en réalité on est venu faire. Quand vous comprenez que chaque mitzvah que vous faites est liée à votre nation et pas une mitzvah individuelle, vous commencez à comprendre ce que je suis en train de vous raconter. Vous n'avez aucune mitzvah individuelle. Aucune. Aucune. Aucune fête individuelle. Tout ce que vous faites, c'est parce que vous faites partie de la nation. Même la Torah, c'est une Torah de la nation. Asher bachar banu mikol ha'amim ve'natan lanu et Torato. Je ne peux pas fêter la fête de Shavuot si je ne suis pas sorti d'Égypte. On est d'accord? La fête de Shavuot n'a pas de date. Elle est 50 jours après la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, tant que je ne suis pas libéré au niveau de mon identité, je ne peux pas recevoir la Torah. C'est pas seulement historique. Et je suis en train de vous parler à tous. Je suis en train de nous parler. Tant que je ne suis pas sorti de mes égypes, de tous mes emprisonnements de l'esprit, je ne peux pas réellement acquérir la Torah. Je vais entendre des mots, je vais répéter, comme un perroquet. Comme dit Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, dommage que je n'ai pas devant les yeux, quiconque dit Anima Amin Be'emuna Shlema Be'biata Mashiach. Vous entendez, vous connaissez cette chanson Anima Amin, Anima Amin Be'emuna Shlema Be'biata Mashiach. Dis Rabbi Yehuda Halevi le Kuzari. Tu dis ça et tu habites en dehors d'Israël. Tu sais à quoi tu ressembles. Si souffre, elle va vous dire le Dibou Asuki. Tu es un perroquet et un oiseau qui est en train de siffler. Tu racontes n'importe quoi. Je terminerai le cours par une histoire triste. L'identité d'Israël doit se retrouver, je l'ai dit tout à l'heure. Pour retrouver cette identité, il faut trois choses. Il faut revenir à sa terre, il faut revenir à son identité au niveau de son peuple, et devenir indépendant. Il y a quelques années de cela, on m'a raconté une histoire d'un rabbin qui vivait à New York. À mon avis, il est encore là-bas. Le soir de Pessah, il est avec toute sa famille. Autour de la table, ils finissent le 16h de Pessah, on a bien mangé, on a bien bu, les quatre verres, tout est parfait, la cache-rouge, mais à Adeline. L'essentiel, c'est le ciel dans la pièce, non? Regardez dans les journaux, il y a des Pessahs n'importe où. Presque Pessahs en Égypte. C'est-à-dire qu'on a oublié le sens de Pessahs, l'essentiel c'est que ça m'inquiète trois cachères. Hein, il y en a une, Bédine, Duala, Mabba.
Pessahs sur le Nil, hein, en croisière.
C'est extraordinaire quand même, il faut le faire. Moi je n'arrive pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand j'étais en France, on parlait un mois et demi, à la radio, de la cachérisation du poignet du couteau. La poignée du couteau. C'est-à-dire le type, il est en plein Égypte, mais l'essentiel, c'est que son couteau, qu'il aurait pu acheter pour 2 euros, voilà l'essentiel. Eh bien, à la fin de ce séjour de Pessah, tout mon chant, tout le monde chante, c'est la femme du rabbin qui se met à pleurer. Et le rabbin envoie sa femme et dit, what happened, darling? Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Elle lui dit, mais j'ai pas envie, moi, d'aller l'année prochaine à Jérusalem, je suis bien ici. On a une communauté, on a tout ce qu'il faut. Et le mari de lui répond, it's just a song. C'est juste une chanson. Alors ça vous fait rire, moi, ça m'a fait pleurer. Ça veut dire qu'on chante, on chante, on dit des choses, mais on n'y croit pas, on ne vit pas les choses. Baruch HaShem, nous ici, on vit les choses. Alors c'est vrai, c'est plus difficile. Mais c'est vrai. C'est vrai. J'ai un copain qui a perdu un diamant dans son quartier, dans un tas de sable. Et pendant une semaine, on a cherché ce diamant sans rien trouver. Je suis resté seul avec lui. Je lui dis, Maurice, c'est sûr que tu as perdu ici le diamant. Il m'a dit, non, j'ai perdu là-bas, de l'autre côté de la bouche. Il m'a dit, mais pourquoi on cherche ici? Parce que le seul endroit où il y a un lampadaire. Vous comprenez? Mais c'est la même chose. Les gens se consolent avec des lampadaires, des soi-disant, des lumières partout, Noël, les lumières, les achats, les papiers cadeaux, les machins. Que du vide. C'est comme le Titanic. Tout le bateau est en train de se noyer et tu entends encore les fourchettes et les gens qui sont en train d'aider les navires. Et tout le bateau est en train de couler. Alors vous savez, vous êtes au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Les rochers, c'est vraiment... Merci. Je n'ai pas terminé le jeu. J'ai parlé des 7 plaies ou des 3. Les 3 dernières plaies représentent en fait la création du monde. Par haut, écoutez bien, c'est un grand secret. Par haut veut savoir à quel moment Dieu a choisi Israël en tant que peuple, puisque c'est ce que vous dites. Moi, parole, je suis quelqu'un d'intelligent, je veux savoir. Depuis quand Dieu vous a choisi, il y a une preuve. Moshe va lui dire, oui, il y a une preuve, je vais te prouver. Tu sais que la création du monde, il y a eu 3 étapes. La première étape, c'est la volonté de la fille de nous sortir. Deuxième étape, c'est le néant. Troisième étape, c'est l'existence. La création. Eh bien, je vais te faire 3 plaies dans le sens inverse. C'est-à-dire, ça va commencer par la AV, l'existence. AV veut dire beaucoup. C'est-à-dire le monde du pluriel, le monde de la création. Est-ce que dans le monde de la création, il y a eu déjà beaucoup de détails sur la planète, Dieu avait déjà choisi Israël? Oui, la preuve, c'est que le peuple égyptien recevra son coup, et que le peuple d'Israël, non. Parole, accepte, enlève son chapeau, dit à mon cher Abénou, d'accord. Est-ce un degré avant, il y a déjà eu un choix divin du peuple d'Israël, de cette notion Israël, comme tu me le dis? Mon cher lui dit oui, au moment même du néant. Il y a déjà eu un choix d'Israël, la preuve, la plaie des ténèbres. Les Égyptiens vont mourir. Et les enfants d'Israël, non. Et Pharao se dit, maintenant, il me reste encore 1 degré. Est-ce que dans la volonté de Dieu qui a précédé tout, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le réchit, là aussi, il y avait déjà un choix d'Israël? Moshe lui dit oui, mon cher Paro, c'est la dernière fois que tu poses la question, parce qu'en réalité, tu verras que tous ceux qui veulent se déguiser en premier-né vont mourir. Le seul vrai premier-né, la seule vraie pensée, celui qui est monté dans la pensée divine, va rester vivant. Ça, c'est la clé des premiers-nés. Moralité, les trois dernières clés viennent réaliser et certifier ce que je viens de vous dire ici, le choix de Dieu par rapport au peuple d'Israël. Quiconque veut jouer à trahir, à se déguiser, à prendre la place d'Israël, va périr. Et malheureusement, c'est ce que les nations du monde ne comprennent pas. Et la seule solution à tout qui est en train de se passer aujourd'hui, je le dis, mais c'est difficile à accéder, c'est la reconnaissance des nations que le peuple d'Israël est lui seul porteur du message divin pour le bien de l'humanité, pas pour s'en obéir, pour le bien de l'humanité. Merci.
Alors, vous avez défini un programme, mais est-ce que tout le monde est en mesure de le réaliser? Quel est le rôle de chacun? Comment, comme vous avez dit, révéler la présence de Dieu dans le monde et comment chacun peut le faire? Est-ce qu'il y a un rôle individuel ou collectif ou les deux à la fois?
Le rôle est collectif, d'abord et avant tout, car il a été donné à la nation d'Israël. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous mettez le tribune, c'est parce que le peuple d'Israël a reçu la mitzvah des tribunes. Aucun juif, individuellement parlant, n'a reçu cette mitzvah. On est d'accord? Et Dieu nous a donné une mitzvah pour la nation. Maintenant, moi, en tant que personne individuelle de cette nation, j'ai ma manière à moi de mettre les tribunes. Je suis sûr qu'on n'attache même pas les tribunes de la même manière tous les deux. Pourquoi?
On serait d'abord un tournant?
Moi non. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu laisse à chacun d'entre nous la possibilité de dévoiler son prisme à lui dans cette grande mitzvah collective. C'est extraordinaire. La façon que j'ai d'attacher mon titi, les fils de mon titi, sont différents de mon ami. Est-ce qu'il a raison que j'ai tort? Non, nous avons tous les deux raison. La mitzvah, c'est de mettre un titi en attachant les fils, mais chacun, selon son identité, va attacher. Avec sa manière à lui d'attacher. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? C'est que chacun de vous, chacun d'entre vous a reçu des qualités au moment de sa naissance. Les uns, c'est la beauté. Les autres, c'est l'intelligence. Les autres, c'est l'instruction. Les autres, c'est la façon de vivre. L'autre, c'est l'intelligence de vivre. L'autre, c'est la capacité de créer certaines choses. L'autre, c'est de l'art. L'autre, c'est des mathématiques. L'autre, c'est... peu importe. Eh bien, prenez ce que vous avez de meilleur en vous. Et utiliser le, ce degré-là, pour dévoiler l'infini sur terre. Avec votre prisme à vous. Si Dieu m'a créé artiste, je dois utiliser ma peinture pour pouvoir faire ce travail et expliquer, car il m'a peut-être donné deux ou trois ou quatre qualités. D'utiliser toutes ces qualités, de les mettre au service de ce grand degré, de ce grand programme. C'est ça que nous devons faire. Et il n'existe pas une personne ici qui n'a pas une qualité. Ce n'est pas possible. Car s'il n'avait aucune qualité, il ne serait pas là. Si Dieu vous fait lever le matin, c'est que vous êtes nécessaire à la vie, nécessaire au cosmos. Cosmos veut dire de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a un ordre cosmique. Et vous êtes important à cet ordre tant que vous êtes vivant. Dès qu'on n'a plus besoin de vous, vous passez de l'autre côté. Donc cherchez en vous ce que vous avez de meilleur, et sortez-le. Chez les kabbalistes, ils ont un petit peu plus de chance, c'est que le maître révèle à ses élèves ses qualités. Et il voit en lui, sur son front, vous savez que notre front, c'est un écran. C'est pour ça que certains mettent leurs cheveux devant pour cacher un petit peu l'écran.
Moi.
Tout est écrit. Tout est écrit. Les mauvaises et les bonnes choses sont écrites sur le front. C'est un écran. Et quiconque sait lire, c'est un Zohar précis, sans vous dire l'endroit, sinon tout le monde va aller chercher, quel, il y a une possibilité de lire. Mais ce n'est pas donné à n'importe qui, c'est donné à ceux qui savent se taire. C'est-à-dire que ceux qui savent et qui parlent commencent à jouer avec tout ça, ils perdent en réalité immédiatement cette qualité, cette capacité. Donc, comme toujours, Dieu dévoile ses secrets au plus grand secret à qui, vous savez, à qui sont dévoilés les plus grands secrets? Aux animaux. Aux animaux, parce qu'ils se taisent. Et nous dit le Zohar à Kadosh que les animaux voient des choses que les hommes ne voient pas, parce qu'ils savent les garder. Nous, dès qu'on a un petit truc, le monde entier doit savoir, on dirait un chauffard. Donc il faut savoir rester dans l'humilité et rester à sa place, savoir en réalité quelles sont vos qualités et les développer. Et les kabbalistes ont des maîtres qui leur disent, à un moment donné où l'élève est arrivé à un certain niveau, voilà, tu dois faire telle et telle chose. Quand je suis rentré à la yeshiva, quand je suis arrivé en Israël, je suis rentré dans une yeshiva pour étudier normalement, comme tout le monde, la rabbanou. Et le maître, au bout de 2 mois, rentre et me regarde et me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, je fais comme tout le monde. Il me dit, non, toi, tu vas dans l'autre pièce. Tu n'es pas fait pour étudier cette étude-là, tu es fait pour étudier l'autre étude. Et donc, j'ai quitté immédiatement, je suis parti de l'autre côté. Et tout doucement, on nous révèle. Dans vos noms, dans vos prénoms, puisqu'il s'agit de noms, le livre des noms, il y a tout le secret de votre vie. Il faut savoir aussi quelles sont les lettres qui ont précédé votre prénom d'aujourd'hui. Par exemple, Yoel. Avant le Yud, qu'est-ce qu'il y a?
Sept.
Avant le Vav, il y a
Hef.
Avant le Aleph, il y a Tav, du roulement d'avant. Et avant le Lamed, il y a un Chaf. Donc quand je prends les lettres qui précèdent le nom de Yoel, j'ai déjà un autre prénom, qui veut dire en réalité d'où je suis venu. Et les lettres qui succèdent à mon prénom vont me dire où je dois arriver.
Bon, un exercice à faire la
maison.
Ce sont des méthodes. Alors,
qu'est-ce
qu'il y a avec nous? Allez, posez-vous,
s'il vous plaît.
J'ai trouvé. On a fait de ce Je vais vous dire comment est-ce qu'on peut conseiller le fait de créer avant le monde, et on voit qu'Israël a été choisi parmi les nations.
Okay. Alors je réponds d'abord à cette question. Asher Bachar Banu Mikola Amin La'atot Rastai Shalom. C'est-à-dire qu'il a créé un peuple de parmi toutes les créations d'autres peuples qui, lui, sera capable de faire ce que nous venons d'évoquer. Donc ce choix, cette Bechira, est en réalité lié à notre nature, il a créé, il a décidé, il a choisi de nous créer comme ça. C'est ça, Nicolas.
De créer Israël
avec cette capacité-là. Donc ça ne dépend pas de quelque chose qui est venu par la suite, il nous a regardé, il s'est dit, tiens, qui je vais choisir pour être le porteur de mon message? Non. D'accord? Alors comment est-ce que je peux être sûr de ça? Mais tout simplement, je voulais prouver par les plaies d'Égypte. La plaie, qui était la dernière, c'était celle qui a été dite en premier. Lorsque Moshe vient chez Pharaon, il lui dit, à la fin, tu perdras ton premier-né. Pourquoi? Parce que quel est ici le combat? C'est qui est le porteur du message divin pour l'humanité? L'Égypte ou Israël? À cette époque-là, c'était ça le combat. L'Égypte pensait que c'était elle, et Israël savait que c'était lui. Et Dieu est obligé d'intervenir, de faire un tri. Et c'est pour ça qu'il va tuer le premier-né égyptien pour laisser Israël. C'est tout. C'est une preuve irréfutable. La Torah n'est pas subjective, car elle n'est pas la création de l'homme. Elle est objective. Toutes les religions du monde sont subjectives, créées par l'homme, inventées par l'homme. Nous sommes le seul peuple, je ne dis pas religion, car nous ne sommes pas une religion, Nous sommes le seul peuple dont la Torah est objective car elle vient de l'infini. On n'a jamais été chercher quoi que ce soit, c'est lui qui est venu vers nous. C'est énorme.
Il y a un lien entre la mort des premiers-nés et le fait que Israël est appelé béni les premiers.
Justement, mon fils, s'il peut dire je suis le premier de l'histoire, tous ceux dont la Torah dit vous êtes les premiers. C'est-à-dire il y en a trois. Le peuple d'Israël, qui est en réalité, qui a fait un degré réchit. Réchit, c'est Boato, premier prémisse de cette semence, Dieu. L'Égypte, qui s'appelle aussi Réchit par rapport à toute la nation qui est là-bas, au niveau des premiers. Et Amalek, qui lui aussi s'est appelé Réchit, Goïm, Amalek. Donc ces trois peuples vont vouloir dans l'histoire prendre la place d'Israël. Amalek, Hitler, c'est la même source. Donc on voit qu'en réalité, Hitler, dans son livre, la seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir qui va être le porteur du message divin sur Terre. Il ne peut pas y avoir deux peuples élus, dit Hitler, qui marchent dans le micro. C'est ou eux, ou nous. Donc un doit disparaître. On a vu qu'il a disparu. Vous comprenez comment ça marche? C'est énorme. L'Égypte, la même chose. L'Égypte, on est sorti d'Égypte, elle est restée comme une Metsulache en Bazagim, comme ça c'est marqué. Un aquarium en poisson, on a tout quitté. Et aujourd'hui, la chrétienté, qui en réalité la source de l'antisémitisme moderne, elle aussi est en train de tomber complètement, jusqu'au moment où elle reconnaîtra Israël comme étant le vrai porteur de ce message. La même chose pour les musulmans. Chez eux, c'est plus facile, car ils sont en réalité juste la main de l'Occident. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'Occident se sert d'Ishmaël pour frapper Israël. Donc il leur paye par derrière pour ne pas se salir les mains, car le cochon monte toujours ses pattes sur le sabot pendu, on est propre, mais il ne ruine pas. Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est l'Occident qui utilise Ishmaël, les Palestiniens, pour frapper Israël. Il faut être très intelligent pour connaître tous ces finesses de l'espace et de du temps.
Question. Oui, hein. Ah, écoute,
Vous avez dit que, si je vais vous renvoyer, parce que le type comprend que c'est l'idée, hein. Vous avez dit que la Ségoula, c'était l'identité de chaque juif, et qu'elle n'était pas exploitée à 100%. Et vous avez dit aussi que chaque juif qui vient en Israël est un prophète. Est-ce qu'on peut considérer Nolé Chabak qui vient, qui s'installe en Israël, comme étant un prophète?
C'est très simple. Nous sommes tous des prophètes, mais certains d'entre nous ont entendu. Et je vais vous citer un verset de la Torah. Vayomer Adonai el Abraham lech lecha me'arzecha mivoladetecha bivayit avicha el ha'aretz asher araita ve'e'etzcha legoy gadol ve'nivdechu becha kol mishpechot ha'adama. Traduction, Dieu dit à qui lech lecha? Pas du tout. Dit le Zohar à Kadosh, Dieu ne dit jamais à Abraham lech lecha, il le dit à chaque juif. Seulement Abraham a entendu, il a fait ses amis, il est venu. Si vous êtes ici en Israël, vous avez entendu une voix de prophétie, et c'est pour ça que vous êtes là.
Voilà, c'est rassuré. Okay. Une dernière question? Oui, je vais bien.
La dame Yahou disait effectivement que nous sommes tous des prophètes. Ça a déjà dit la Torah. Pourquoi cette révélation a été faite en disant voilà tout le peuple d'Israël est prophète et pourquoi il faut les bénir, il faut que ça soit écarté.
Tout à fait. Nadab et Abihu étaient plus forts que Haché et que Aaron. C'est la réalité. Bi Grovaï et Kadesh, dit à Kadosh Baruch Hu, je me sanctifie par les plus proches de moi. Mais leur problème à eux, c'est qu'ils n'étaient pas mariés. Et donc la prophétie n'est pas arrivée comme elle devait arriver. Pour être prophète à un plus haut degré, il faut se marier. Et quiconque n'est pas marié n'est pas apte à recevoir réellement sa prophétie. C'est pour ça que Nadav et Abihu ont eu plusieurs fautes. L'une d'entre elles, c'est de donner une halakha devant leur maître. L'autre, c'est de ne pas être marié. La troisième, c'est d'avoir bu du vin. Mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement être sous de cette proximité avec Dieu, c'est pas aller boire dans un bar du vin. Quel, il faut bien comprendre la Torah. Donc, ces lacunes ont fait en sorte de faillir au lieu de le réussir. Le Kohen Gadol, lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, on lui prévoit une deuxième femme au cas où sa femme présente va mourir. Pour ne jamais rester sans femme, parce qu'en réalité, la prophétie passe par le couple. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai cité le Ségol, les trois points, c'est que le point d'en haut, c'est l'éternel, et les deux points d'en bas, c'est l'homme et la femme.
C'est
un Shmuel qui a eu un mariage, en réalité, avec un élément essentiel, c'est pour ça qu'il est, en réalité, le détail qui sort du tout pour apprendre quelque chose de spécifique.
Merci, Rajan Arouz, d'avoir à la tête. Je voudrais vous rappeler que nous retrouvons maintenant le 10 mars avec nos espérances de